10h01, vous êtes à l'écoute des vraies affaires à CGMD 96.9, l'alternative radio avec votre hôte, moi-même, PY Magic au Mike Bois, mon acolyte de toujours, Pierre-Eugène. Il va falloir te trouver un nom, Pierre-Eugène Lamborghini, tu sais, quelque chose de super cool 2020.
Je suis super cool, moins de rajouter quoi que ce soit.
On a le plaisir d'avoir avec nous en studio Noémie Lévesque, coordonnatrice de la Maison Oxygène, et Seb Martel qui est un intervenant. Je suis sur le site internet de la Maison Oxygène Québec. En gros, ce qu'on dit à la page d'accueil, je vais vous le lire pratiquement mot pour mot, puis on va démystifier ça un petit peu après, on va essayer de comprendre. Le but de la Maison Oxygène, offrir un lieu d'accueil et d'hébergement temporaire pour les pères et les enfants vivant des problématiques familiales sévères, où des intervenants leur fournissent du soutien dans l'amélioration et la consolidation des liens père-enfant, ainsi que des habiletés parentales et sociales.
Bref, des hommes en difficulté.
Des hommes en difficulté.
Qui se retrouvent là, un petit peu entre deux chaises.
On sait qu'il y en a beaucoup parce que vous êtes déjà full.
Exact.
D'abord, merci d'accepter l'invitation. Super intéressant. Ça nous fait plaisir. Donc, ça fait quoi, 2 mois qu'on est ouvert?
Mois de septembre, mi-septembre.
Septembre? OK. Octobre, novembre, décembre, janvier. C'est le 4e mois présentement. Et puis, ça marche à pleine pine. Les gens ont tendance à penser que les hommes sont forts, pas besoin d'aide, pas besoin de tout ça. On est capable de se tirer de n'importe quel mauvais segment de notre vie. Mais on a la preuve que les hommes ont besoin d'aide, puis il n'y a rien là.
Oui, absolument.
Fait qu'on pourrait peut-être présenter nos invités...
Tu veux faire un petit parcours?
Au moins,
qu'est-ce qui les a amenés là? Puis,
qui est là, comme ça, l'information passe toujours mieux. Donc, il y a Noémie Lévesque et Sébastien Martel,
c'est ça?
Alors, Noémie, toi, tu es coordonnatrice. Parle-nous donc un petit peu de ta trajectoire, parce qu'il y a 2 mois, tu n'étais pas coordonnatrice à la maison L'Oxygène.
Non,
alors, dis-moi un peu, en quelques mots, là, c'est quoi ton parcours, puis c'est quoi ton rôle à la maison L'Oxygène?
Dans le fond, il y a 2 mois, j'étais l'agente de développement de Maison Oxygène. Donc, j'ai commencé comme agente de développement en décembre l'année dernière. On a vu qu'il y avait vraiment un trou de service, mais c'est depuis 2013 là, que les gens essayent de mettre ça sur pied. Vu que les organismes, les autres Maisons Oxygène sont avec un organisme porteur, c'était plus difficile pour la gang de Québec de mettre ça sur pied parce qu'eux autres étaient comme vraiment indépendants. Il y a 2 maisons que j'ai sur les 14 qui sont comme tout seuls, qui n'ont pas d'organisme porteur. Donc, quand on est arrivé au niveau du développement, du financement, tout ça, c'était plus compliqué. Finalement, on a eu le plan d'action ministériel en santé et bien-être des hommes qui est tombé du ciel. Donc, ils m'ont engagé comme agent de développement. On a installé mon bureau chez Autonomie. Je vous entendais en parler ce matin. Donc, j'ai eu comme une belle gang aussi pour me donner un coup de pouce dans le communautaire à Québec. Maintenant qu'on était très bien situé, c'était une bonne idée d'installer notre bureau là. Donc, de décembre jusqu'à juillet, on a fait la recherche de locaux, tout ça, puis de vraiment aller voir le besoin. Mais le trou de service était tellement énorme qu'on a un peu tout tasser les autres phases de développement pour vraiment mettre le point de service, la ressource sur pied pour ouvrir. Puis c'est vraiment un organisme pour les papas. Fait que on voyait, là, puis la gang de Tounemi venait nous voir. Hey, on aurait eu des papas à vous référer. On a parlé avec Maison Revive. On parlait avec différents partenaires. On est rendu entouré d'une belle gang. Puis on était très, très bien accueillis aussi parce que tout le monde disait ça. Fait que le parcours, ça a été très rapide. Puis on a vraiment installé la ressource. Sébastien a fini de m'aider à installer les lieux, l'appartement, tout ça où on est situé. Puis on a ouvert. Fait que ça s'est fait très rapidement. Le cheminement est allé tellement vite que on a sauté des étapes. On retourne au financement, on retourne à la base, mais au moins on a pu mettre des papas à l'abri.
OK. Alors parlons un peu de Sébastien, puis après ça, on reviendra à la maison elle-même. Puis moi-même, j'aurai des petites tranches de vie à vous partager dans le merveilleux monde de l'intervention auprès des hommes. Là. Alors Sébastien, toi, tu es intervenant, donc il y a 2 mois, tu n'étais pas à la maison Oxygène non plus.
Non plus.
Que faisais-tu? Qui es-tu? Que fais-tu?
Un parcours un petit peu atypique. Beaucoup travaillé en usine.
Okay.
Un travailleur d'usine qui s'est réorienté à 40 ans, un retour aux études.
Wow.
Là, depuis 6 ans, je travaillais comme agent d'intervention dans un CRC, une maison de transition.
OK. Puis
Pas mal là, j'ai pogné la piqûre là, de la relation d'aide, vouloir aider les hommes. Puis, retour aux études m'a permis d'être embauché comme intervenant social.
T'as choisi quoi comme étude pour arriver là?
L'intervention de délinquance.
Carrément.
Oui.
OK. Et là, t'as atterri à Maison Oxygène. C'est quoi ton rôle, Maison Oxygène?
Je suis intervenant.
Ça fait quoi un intervenant à la Maison Oxygène?
On est dans l'accueil des papas qui nous appellent, qui viennent nous visiter. Puis après ça, c'est les accompagner, les aider dans leur démarche, faire un plan de match avec eux autres, regarder ce qu'ils ont besoin, comment s'y rendre.
Que toi, t'accueilles l'homme derrière l'armure.
Exact.
Tu disais, t'as toujours eu cette tendance-là à vouloir aider. Tu veux aider les hommes. Est-ce que au départ, c'était vraiment aider qui a besoin d'aide ou ça a vraiment toujours été un petit peu plus séduisant, le côté aider l'homme de la société aujourd'hui?
Ben, non, c'était aider en général, mais je crois que côtoyer les gens qui sortaient de prison, c'est plus là que j'ai pogné la piqûre d'aider les hommes.
OK.
Puis moins les jeunes, plus les personnes plus âgées, adultes, plus que côté jeune. Ouais. C'est vraiment en côtoyant les gens qui sortaient de prison.
C'est ta tasse de thé, là. T'es à l'aise là-dedans, tu t'identifies à ces gens-là. Ouais. C'est plus facile pour eux autres, probablement, aussi, de s'identifier à un gars comme toi.
Oui, probablement.
Je prends une minute pour une petite tranche de vie, juste pour dire qu'est-ce qui fait que moi, je m'intéresse à ça de mon côté. Moi, j'ai été porteur du dossier violence familiale pour la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik. Et on a eu une étude du côté de l'Utson sur la violence familiale, justement, puis on en est venu à parler de la condition des hommes, puis on a réalisé que les hommes étaient majoritairement ceux qui se suicidaient davantage, qui étaient le plus en détresse, et on a réalisé que là, il y avait vraiment un besoin. On a fondé un organisme inuit pour les hommes inuits, qui était une première là-bas, là, le réseau Kayak, qu'on avait justement enraciné avec la prison de Bordeaux, puis la prison... à Saint-Jérôme, qui est une prison un petit peu plus maximum. Parce que là, il y a une audience captive, sans mauvais jeu de mots, là. Et moi, c'est à partir de là que j'ai commencé à prendre connaissance de ce qui se passait dans le réseau de l'intervention pour les hommes. C'est là que j'ai découvert, entre autres, que c'est des organismes qui sont sous-financés, souvent parce que, justement, il y a un lobbying au niveau des ministères qui veut favoriser les femmes qui sont les victimes. Puis on dit les hommes, ben c'est des agresseurs. Eux autres, on les met en prison. Alors, ils n'ont pas besoin de service, ils ont juste besoin de se faire rappeler à l'ordre, de se faire taper ses doigts, puis de se faire rééduquer, puis on peut très bien faire ça en prison. Avec comme conséquence que les organismes comme la Maison Oxygène, quand ils veulent, ou la Maison Autonomie, des trucs de même, quand ils veulent sortir leur épingle du jeu, ben là, ils ont pas mal plus de misère, il faut qu'ils remontent à contre-courant. Alors, vous autres, vous avez parti ça il y a 2 mois. Votre financement, il vient entièrement du ministère. Il y a toujours un bout qu'il faut vous trouviez vous-même. Comment ça marche?
Mais pour faire du pouce là, sur ce qui vient de se dire, c'est justement parce que les groupes pour hommes sont allés revendiquer. La gang du réseau des maisons oxygène sont allés revendiquer, dans le fond, auprès du gouvernement. Le regroupement santé provinciale bien-être des hommes sont allés, tu sais. Puis c'est là que le gouvernement il a fait comme, OK, ça va pas bien nos hommes, là. On va aller injecter des sous. Puis c'est de là que le plan d'action ministériel en santé bien-être des hommes est arrivé, puis c'est ce qui a permis de nous mettre sur pied. Pour le moment, on est financé, c'est eux autres qui assurent comme le financement pour 3 ans. Donc là, nous, comme je disais tantôt, la phase de financement, de développement, on n'a pas mis l'accent là-dessus. On voulait vraiment se dépêcher à ouvrir les portes, tout ça, puis aller chercher un intervenant. Fait que là, on va tomber là-dedans, là, toutes les histoires de financement, tout ça. On touche un peu à tout, donc on peut aller, je pense, vers différentes... tu sais, j'appelle ça, tu sais, différents gouvernements, différents paliers, différentes fédérations, parce que, tu sais, on est famille, on est paternité, on est homme, on est enfant, on est prévention de l'itinérance. Donc, je pense qu'on va être capable d'aller en chercher un peu partout. Ça va rester à prouver dans les prochains mois, là. Je vais vraiment me lancer dans cette recherche.
Il y a 20 ans à Montréal, un organisme que j'avais connu, eux autres, leur mission, c'était justement d'accueillir des hommes en difficulté. Mais tu sais, dans le genre de scénario, là, la chicane pogne dans le couple et dans la famille. Puis là, ben la tradition, c'est quoi? C'est on sort la femme puis les enfants. Ben là, cet organisme-là a dit, ben là, si c'est l'homme qui perd les pédales, on va pas sortir la femme et les enfants, on va sortir l'homme, puis on va l'encadrer, puis on va l'aider. Puis c'est un organisme pour des hommes, par des hommes, et il va avoir un endroit sécuritaire où on va être capable de l'aider à se remettre les gens en face des trous. Et ils ont été obligés de fermer au bout de quelques mois, faute de financement. C'est incroyable. Alors là, j'ai l'impression que c'est un peu la même formule qui revient comme 20 ans plus tard, ce qui est une très bonne chose. Je suis vraiment content. Et là, j'ai compris par contre que vous aviez un nombre quand même assez limite de lits, là. Vous n'avez pas 50 lits, vous autres, là.
Mais je veux juste dire que la maison que j'ai de Montréal, elle, est ouverte depuis 89. Fait qu'eux autres, ils ont réussi.
OK.
mais j'ai comme l'impression que c'est parce qu'il y avait, tu sais, son affilié au Carrefour familial, Hochelaga, tout ça. Okay. Puis il y avait des enfants aussi.
Donc, vous autres, là, vous accueillez le père et les enfants quand c'est nécessaire, là. Ça veut dire qu'on a l'espace physique, on a des chambres à plusieurs lits. Comment ça marche? Décrivez-nous un petit peu l'espace physique de la maison. Ça a l'air de quoi? Faites-nous visiter ça là, en quelques minutes, voir.
C'est ça, il y a le site Internet, il est plus pour informer vraiment pour les services. Sur notre page Facebook, il y a plein de belles photos de l'organisme.
On parle d'un étage, deux étages?
C'est deux étages, c'est rez-de-chaussée sous-sol.
Oh.
On est à Limoilou.
Okay.
Puis on est les voisins de la ressource d'aide d'autonomie. Fait okay. qu'on a une belle collaboration
sur
quand
la 3e avenue.
Ouais, sur la 3e avenue. C'est un beau quartier familial. Il est en revitalisation. Il y a toujours plein d'activités. On retrouve de tout. Donc, c'est vraiment un beau coin. C'était vraiment un beau coin pour implanter.
On parle de combien de chambres? Combien
3
de lits?
3 chambres, 9 lits. Chaque chambre a un lit simple, des lits superposés. Puis on essaie de séparer un peu pour qu'il y ait une zone papa et une zone enfant. Dans une des chambres, il y a une couchette à balanger pour un papa qui va avoir un
durée moyenne de séjour, c'est quoi?
3 à 6 mois.
Oh, quand même. Qu'est-ce qui arrive avec l'école quand c'est des jeunes, il y a des enfants qui sont là? Comment ça se passe pour la scolarité? Est-ce que c'est le papa qui va les conduire à l'école? Ils changent-tu d'école? Comment avez-vous des services scolaires dans la maison?
Non, jusqu'à maintenant, nous, on fournit vraiment hébergement et soutien communautaire. Pour le moment, on est à 3 chambres, mais comme on disait tantôt, on déborde déjà. Donc, on pense de prendre le salon, le descendre dans la salle familiale en bas pour refaire une 4e chambre parce qu'on a 2 papas en liste d'attente déjà. Puis, on a l'impression que les besoins vont juste être grandissants.
La cuisine, les repas, ça marche comment?
C'est tout le papa, dans le fond, qui s'occupe. Le papa, là, dans le fond, il est vraiment autonome. Il s'occupe d'aller porter les enfants à l'école, à la garderie.
C'est une cuisine communautaire?
Oui, c'est une cuisine communautaire.
Il faut qu'ils s'accordent entre eux autres sur le temps d'utilisation du poêle, des chaudrons.
Mais chaque papa a son frigidaire à lui. Chaque chambre a leur frigidaire.
Vous avez 3 frigidaires?
Oui.
Puis la nourriture, elle vient de où? Je te laisse aller après, puis ouais. La nourriture, elle vient de où?
C'est eux autres qu'il faut qu'ils s'organisent. Ils vont faire
leur propre épicerie.
Exact. S'ils ont besoin, on va les accompagner vers du dépannage, mais c'est eux autres qui s'occupent d'avoir leur nourriture, de cuisiner. On les accompagne des cuisines collectives, des choses en même, ça les intéresse, mais il faut qu'ils soient autonomes.
Okay. Chronologie des événements, moi, c'est ce qui m'intéresse. Là, je suis curieux de savoir comment ça fonctionne. On cogne à la porte de la maison. Je veux dire, est-ce qu'il y a, premièrement, là évidemment qu'on manque de place. Fait que oui, il doit avoir un tri, puis on y va avec les cas les plus importants en premier. Mais advenant le cas là qu'on a 200 chambres, puis qu'on a 675 lits, puis qu'on a de la place, puis qu'on a du budget, là, comment ça fonctionne au niveau de sélection? Est-ce qu'on va du cas le plus grave au moins grave, puis après ça, c'est une liste d'attente? Comment ça fonctionne? Là, disons, j'arrive chez vous, je cogne, j'ai besoin d'aide. Qu'est-ce qui se passe chronologiquement? Comment ça se fait?
On commence souvent par une entrevue téléphonique, s'assurer qu'ils vont encore dans nos services, parce qu'il y a quand même un petit filtre qui se fait côté, on regarde consommation, santé mentale, parce qu'on veut préserver le climat de la ressource. On a des enfants sur place, fait qu'on peut pas se permettre d'accepter n'importe qui. Il faut vraiment préserver le climat en premier. Fait qu'il y a quand même un filtre qui se fait. Au téléphone, on regarde si ça s'accorde avec nous. Après, on les rencontre. On est toujours les deux ensemble faire l'entrevue. On fait un peu l'historique de vie de la personne, voir c'est quoi ses besoins, c'est quoi ses buts en venant ici. Outre l'hébergement, ce qui est important, c'est d'avoir la volonté de vouloir garder le lien avec ses enfants. C'est beaucoup une des choses primaires à regarder.
Notre premier objectif, c'est de préserver le lien père-enfant.
Donc, vous allez favoriser un père qui arrive avec ses enfants plutôt qu'un père qui arrive tout seul, là, j'imagine.
Là, on n'a comme pas eu à se poser les questions encore de tri jusqu'à là présentement.
Parce que
on
ça
a pris les
là,
premiers
là.
Qui sont arrivés, qu'on les a pris, on ne pouvait pas les refuser. Ils cadraient avec nous, on les a pris. Puis là, ben, les prochains qui arrivent, si on n'a pas de place, c'est ça qui est dommage. Là, mais...
OK. Fait que vous autres, à 3 familles, vous êtes au bouchon. Là.
Oui.
OK. OK.
Qu'est-ce qui fait que, je veux dire, j'ai pas beaucoup de vécu niveau être aux prises avec des enfants. J'ai pas d'enfants, tu sais, je veux dire. Fait qu'il y a bien des zones grises dans ma tête présentement. Pierre a des enfants, probablement que vous avez des enfants aussi. J'ai pas la chance d'en avoir. Qu'est-ce qui fait à un moment donné qu'un père est obligé de se présenter à la maison L'Oxygène avec ses enfants, pas d'endroit où rester, puis qu'il veut... Qu'est-ce qui fait que ces situations-là peuvent arriver? Là, je veux dire, il doit y avoir plein d'exemples, là, mais donnez-moi-en au moins un ou deux. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on en arrive là?
C'est vraiment une situation, ça va souvent partir de la rupture d'une situation qui est très conflictuelle à la maison. Donc, le papa, il arrive plus, là. Tu sais, souvent, mettons, vu que le conflit s'est envenimé à la maison, mais le papa, des fois, va tomber en arrêt de travail ou va, ou vu le train de vie qu'il était supposé avoir, tu sais, qu'il était habitué à avoir en famille, ben là, le papa, s'il sort, ben, il n'y a pas le moyen nécessairement de se louer quelque chose ou il pourrait se louer quelque chose, mais ça serait un endroit où il pourrait pas recevoir ses enfants. Ça peut être une maman qui a une problématique de santé mentale. Ça peut être, il y a vraiment beaucoup de raisons, mais je dirais que la plus grande des raisons, c'est que le papa veut voir ses enfants. Le papa veut préserver le lien avec ses enfants. Le papa veut avoir la, tu sais, en partie,
sauf
la garde de ses enfants.
Sur le plan légal aujourd'hui, Sébastien, on se rend compte que les femmes ont un certain avantage au niveau légal quand c'est question d'avoir la garde. C'est quoi le scénario qui fait qu'un homme arrive comme ça avec ses enfants, puis qu'il n'y a pas de...
Ben, même présentement, les papas qu'on a n'ont pas leurs enfants à temps plein. Ça va être des droits de visite, une semaine sur deux, du temps partagé. Puis, mais même un papa avec un super bon revenu qui va tomber en séparation, juste avec les frais de pension, les frais de garde, les frais d'avocat, tout ça, va tomber en situation précaire, qui a besoin d'un hébergement, qui n'est même pas capable d'aller se louer une chambre, tellement son revenu est grugé par la séparation.
Donc, en conséquence de la séparation, la précarité financière devient un des enjeux qui fait qu'il se retrouve à la maison oxygène. Il y a manqué d'air en quelque part, lui, là. Okay.
Trois chambres, bien pleines. Évidemment que ça n'a pas dû être long. Vous évaluez les besoins de la population à quoi, là? Dans un monde utopique, là, merveilleux, là, ce serait quoi, là, le nombre idéal d'espace que vous aimeriez avoir, là?
Ben, si on regarde à Montréal, je crois qu'ils sont rendus à 7 chambres.
Ils ont une maison de 5, une maison de 7, puis ils ont un second souffle qui appelle, c'est des appartements supervisés.
Tu sens qu'ils ont deux maisons plus un genre de satellite.
Oui, Joliette aussi sont rendus comme ça. Ils ont 6 places, puis ils ont un appartement supervisé qui peuvent recevoir deux papas. T'sais, si le papa n'est pas tout à fait prêt à quitter, ben, il peut aller en appartement supervisé. T'sais, le but, c'est vraiment de consolider pour qu'il retrouve son autonomie, que quand il va quitter, il va vraiment être prêt. Mais dans notre monde idéal, là, quand on rêve, là,
ouais.
C'est un 7 chambres.
Okay.
Un 7 chambres là, dans un immeuble où il y aurait comme de l'espace pour faire une cour pour les enfants, puis on pourrait recevoir les papas, parce que dans le panier de service des maisons que j'aime, il y a des ateliers que ça s'appelle avec papa, c'est différent, que ça se fait par le jeu, tu sais, d'avoir tout cet espace-là, tout ça, mais ça serait un 7 chambres, je crois, si on se fie aux autres maisons, puis aux demandes qui rentrent présentement, là, je pense que ça serait l'idéal.
Est-ce que vous avez l'impression, question comme ça, hypothétique même, je veux dire, j'en ai aucune idée encore une fois, est-ce que vous avez l'impression que c'est difficile pour certains hommes, pour certains papas, de demander de l'aide à cause de ce maudit préjugé-là de société qu'un homme, c'est fort, que ça n'a pas besoin d'aide? Sentez-vous que c'est plus difficile pour un homme dans cette situation-là d'arriver puis de se mettre à nu devant vous comme ça? Là?
Oui, absolument. Puis je vous dirais, une chose que moi qui m'a étonné depuis qu'on a ouvert, c'est le côté des papas immigrants. On a plusieurs demandes de papas immigrants, puis c'est encore là, c'est encore plus dur pour eux autres, côté culturel, d'aller demander de l'aide.
Évidemment.
D'envisager même une séparation, des fois, pour eux autres, dans le pays qui viennent, que c'est même pas envisageable. Ils vont en parler à leurs amis. Hey, je suis dans une maison d'hébergement pour hommes. Puis leurs amis vont rire. Ils disent, mais non, ça se peut pas. Puis...
C'est tellement contradictoire avec notre culture. Même pas besoin d'aller du côté des immigrants, mais je suis certain, moi, je l'ai vu chez les Inuits aussi. C'est tellement à l'envers de notre culture, de l'homme fort, de l'homme pourvoyeur, de l'homme qui pleure pas,
Superman,
de l'homme qui... Tu sais, qui ouais. est toujours... Écoute, un homme qui s'en va là, moi, je me souviens, j'ai collaboré avec l'armée canadienne, puis il y avait des soldats qui étaient aux prises avec la toxicomanie, puis il y en avait un, de temps en temps, qui avait le courage d'aller en avant du peloton pour parler de sa condition, pour aider d'autres qui savaient qu'ils étaient dans le peloton. On regarde juste, là, tous les traumatismes, là, les chocs post-traumatiques, ouais. là, comment ils sont pas capables d'en parler. Ça va à l'envers de comment les hommes sont éduqués. Demander de l'aide, là, c'est un aveu de faiblesse, c'est un aveu d'échec. C'est insoutenable.
Et pourtant, là, c'est le contraire. C'est
et le problème, c'est qu'un homme va être rendu à la crise, à la limite de la crise,
ouais.
pour décider qu'il va finalement demander de l'aide. Il ouais. va avoir essayé d'épuiser toutes les autres ressources. C'est fou, raide, là.
J'aimerais ça qu'on fasse un rewind un peu. puis qu'on parle de comment on a mis ça sur pied, cette maison-là, au départ. C'est l'idée de qui d'avoir fondé ça, comment ça s'est passé, la grosse job de paperasse, les subventions, comment on va chercher ça, depuis le début, là, ça s'est passé comment?
C'est en 2013, c'est vraiment trois intervenants du terrain qui ont vu qu'il y avait ce trou de service-là parce qu'ils n'étaient pas capables de référer des papas avec les enfants d'hébergement. Ils sont vraiment allés cogner aux portes pour voir c'est-tu possible d'aménager tel service. Mais tu sais, les services débordent tout déjà. Tu sais, les services d'hébergement, tout ça, tout le monde est super ouvert, là, mais présentement, ils pouvaient pas faire plus eux autres non plus. Fait qu'ils ont continué d'aller cogner à certaines portes. Puis justement, comme je disais tantôt, il y a personne non plus qui a dit, ben moi, je vais porter le projet, puis je vais faire, je vais me dire, ben tu sais, un organisme, mettons, généraliste d'hébergement, dire, ben je vais ouvrir une branche père-enfant. Donc, les représentations, les revendications auprès des autres, ça a été vraiment le bout difficile parce qu'il n'y avait pas d'organisme porteur, puis parce qu'il y a beaucoup d'organismes à Québec, puis qu'il y a beaucoup de gens qui cognent aux portes aussi. Donc, au niveau du financement, après ça, ben, comme je disais, c'est le plan d'action ministériel qui a fait, qui a vraiment vu à cause des représentations du réseau des maisons de jeunes qui font une superbe, de belle job. Le CA qui a vraiment travaillé en équipe avec eux autres. J'ai un CA hyper engagé. Quand on parle du CA qui sont venus peinturer les murs, qui assurent la garde téléphonique le soir, la fin de semaine, tout le monde fait OK. C'est très rare, le CA qu'on a présentement. Là.
Qui s'implique à ce point-là.
Oh oui.
Puis donc, les trois personnes, c'était des intervenants à la base en 2013. Est-ce qu'ils sont encore dans le paysage de la maison présentement? Sont-ils dans le CA? Travaillent-ils là présentement encore? Est-ce qu'ils sont encore présents?
Non. Il y a une personne qui est décédée, malheureusement. Les deux autres personnes nous suivent de loin.
OK.
sont contents que ça a enfin vu le jour. Il y avait quelqu'un qui était venu aussi à l'inauguration officielle. Mais non, mais je pense que, tu sais, je peux pas parler pour eux autres, j'ai pas discuté. Moi, j'étais arrivée juste, ça fait un an, là. Mais ça a dû être assez soufflant comme dossier au départ. Mais on voit qu'ils sont restés dans le communautaire, on voit qu'ils gravitent, tu sais, qu'ils viennent voir nos publications, tout ça. Puis quand on fait des événements, ben, ils sont toujours invités parce que c'est grâce à eux autres qu'on est là aujourd'hui. Puis le CA qui est là présentement, il y en a quand même qui sont là depuis 2014, qui sont arrivés pas longtemps après, qui sont toujours là aujourd'hui. Fait qu'on a un CA quand même assez stable et très, très engagé.
Puis toi, Noémie, en tant que cordeau, tu dois avoir la cause des hommes à cœur en tabarouette, tu sais, parce que là, je veux rien dire de sexiste, loin de là l'idée, mais tu es quand même une femme qui est coordonnatrice d'une maison pour hommes. Tu sais, je veux dire, tu dois l'avoir tatouée sur le cœur, la cause, parce qu'en plus, tu sais, un monsieur qui se pointe, puis qui doit faire office de confiance à l'organisme, qui voit que c'est une femme qui est coordonnatrice, il peut peut-être avoir une petite réticence, ça arrive pas pantoute, étant donné que tu es tellement impliquée, puis que ça paraît, dans le fond.
Mais ça fait quand même un petit bout de temps que je suis dans l'intervention. Ça fait quand même presque 20 ans. J'ai travaillé dans le communautaire. J'arrive de la Gaspésie, fait, j'ai travaillé dans le communautaire. J'ai travaillé à domicile. J'ai travaillé en milieu scolaire. Donc, je l'ai vu, l'impact des papas qui essayent de s'impliquer, qui en arrachent, ou des papas qui sont super présents aussi. Tu sais, fait que j'ai vu comme tout cet impact-là. Puis quand j'ai vu cet organisme-là, tout ça, puis que les mois approchés, on dit, ben viens voir, on est qui? Fait que tu vois, tu sais, c'est pour le papa, puis c'est pour l'enfant aussi. C'est tellement important. Tu sais, un enfant, ça se fait à deux, puis c'est pas pour rien. Les deux parties sont importantes. L'enfant se développera pas de la même façon. Puis là, je suis contente parce que l'autre difficulté, quand on parlait de recherche de financement ou de développement, les statistiques. Quand on tombe dans les statistiques pour Rome, puis j'en parlais justement avec un groupe d'étudiants qui sont venus nous rencontrer, qui ont fait les mêmes recherches, ça remonte à 2006. Là. Fait que quand on tombait dans les statistiques pour papa, ayant besoin d'hébergement, à part une chance qu'on a bénéficié des documents du réseau, tout ça, puis de notre gang de partenaires, parce qu'il n'y a rien. Si cette problématique-là était inexistante. Puis là, aujourd'hui, on sort avec des résultats d'autres statistiques qui disent que finalement, le développement de l'enfant, le papa est essentiel. Donc, tu sais, en tout cas, c'est un peu...
Parlant de développement, c'est quoi les enjeux de la maison oxygène aujourd'hui, puis pour les mois, puis les prochaines années à venir? Là, c'est quoi les prochains défis, prochains enjeux?
Le financement.
Donc tantôt, je te l'avais demandé, je me souviens pas si on t'avait réussi à répondre à ça. Là, votre financement actuellement, c'est 100% subventionné?
Ou
le pourcentage de vos activités qui consiste à aller chercher des fonds ailleurs?
C'est là qu'on s'en va, là. Parce que,
donc, pour le moment, là, vous dépendez des
plan d'action ministériel. Ouais.
Puis qu'est-ce que vous avez comme projet de financement?
Là, on va aller voir au niveau des autres subventions gouvernementales, comme je disais tantôt, famille, itinérance, tout ça. On va se pencher aussi sur des levées de fonds, mais on est à travailler vraiment là-dessus. Là, il y a un comité de travail, financement, qui va vraiment aller voir. Puis on veut avoir des levées de fonds qui vont aller rejoindre les familles. On est beaucoup. Oui, c'est un organisme pour papa, mais on travaille beaucoup en coparentalité. C'est les deux parents qui sont importants. Fait qu'on va essayer d'organiser des activités pour les papas, on va essayer d'organiser des activités familiales. Pour le moment, on est rendu vraiment à plancher là-dessus là, pour aller voir la meilleure façon d'aller les chercher.
Je me demande s'il n'y a pas un lien à développer avec le domaine de la construction, avec le domaine de la gestion immobilière, parce que vous autres, vous arrivez avec une clientèle qui est déjà là, vous avez une liste d'attente. Fait qu'une entente là, avec un contracteur, comme là, moi, je fais affaire avec Immeuble Populaire à Québec. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un GRT. Donc, eux autres sont spécialisés dans les habitations communautaires.
Oui.
Ils sont subventionnés et ils ont déjà 2000 portes à Québec. Michel Côté, qui est le directeur, entre autres. Là. Moi, Michel Côté, c'est le genre de personne avec qui j'aurais le goût d'aller m'asseoir parce qu'eux autres sont capables d'aller chercher du financement pour des bâtisses qui pourrait avoir comme mission de répondre aux besoins de la maison oxygène à Québec. Parce que là, vous autres, vous arrivez quand même avec une valeur sur le marché, vous avez déjà des locataires, vous avez déjà du monde, et en plus, vous avez un programme d'encadrement qui dit, gars, si vous avez des problèmes avec vos locataires, on est là pour intervenir. Parce que moi, j'habite dans un magnifique logement d'immeuble populaire, mais dans ce logement-là, il y a des logements subventionnés, il y a des personnes âgées, on a eu toutes sortes de problématiques. Immeuble populaire n'est pas équipé pour intervenir là, et on a des problématiques. Alors, vous autres, vous arrivez avec une plus-value. Si déjà vous avez ce lien-là avec eux autres, vous avez une plus-value parce que vous avez des intervenants qui sont en plus dans le deal. T'sais.
Ben, on a commencé à approcher, ça c'est comme dans notre plan d'action, là, peut-être plus comme pour l'année prochaine. Là, on est vraiment. Ce qui est difficile à aller chercher, c'est le financement pour la mission globale. Mm-hmm. Là, ça nous prend un intervenant du soir. Ça nous prend du monde qui va être là la fin de semaine. Là, nous, on est là du lundi au vendredi, puis c'est le CA qui est comme. Il y a un cellulaire, un numéro d'urgence juste pour les papas. Fait que on reçoit des références du lundi au vendredi. On n'est pas en mesure d'offrir justement les activités le soir, la fin de semaine. On n'offre pas de présence encore le soir. Fait que c'est vraiment du financement au niveau de la mission globale pour vraiment aller combler les besoins du terrain. Mais dans un avenir très proche, on va se diriger vers des ressources comme ça, oui, pour aller vraiment faire l'acquisition d'un bâtiment pour avoir plus de chambres.
Est-ce qu'il peut y avoir un cheminement en termes de leadership de la part des résidents? Que le papa qui est là depuis 3 mois, lui est en mesure d'accueillir puis d'accompagner le papa qui vient d'arriver. Celui qui est là depuis 5 mois, il est en mesure d'offrir encore quelque chose de mieux puis qu'il y ait une espèce de rotation au niveau du leadership à partir même de la clientèle, ce qui va alléger un petit peu le fardeau là, du budget sur l'intervenant parce que le papa, lui, qui a déjà fait une trajectoire dans la maison, il a une expertise qui est sur le terrain, qui est encore plus... puis on voit ça beaucoup dans les maisons de thérapie en toxicomanie. Moi, je viens de ce secteur-là. Je ne sais pas si c'est déjà quelque chose qui est envisagé chez vous.
Ben dans le fond, dans les maisons que j'aime, ce qu'on nous avait dit, c'est les groupes d'entraide se forment tout seuls. Tu sais, dans les papas finissent par se parler, finissent par se donner des trucs, s'outiller. Il y en a même qui développent des amitiés. Tu sais, ça se fait comme d'emblée. C'est sûr qu'on aimerait ça, justement, faire un partenariat avec les papas qui sont passés, mais on n'aurait même pas encore les papas qui ont cette expertise-là tellement
on est devant. Je parle de ceux qui sont déjà sur place, qui ont déjà un cheminement dans le corps. Comme là, vous en avez 3 qui sont là. À un moment donné, il y en a un qui va s'en aller. Les deux qui restent, là, ben, les autres, ils ont une compétence par rapport à celui qui rentre. Donc, ils sont en mesure de l'accompagner, puis de l'accueillir, puis de cheminer avec. Encore mieux que n'importe quel intervenant parce qu'il a vécu la trajectoire. T'sais.
Seb, au niveau de l'intervention, t'es intervenant de jour là-bas, du lundi au vendredi. Comment ça fonctionne? Est-ce que t'es là dans la maison, disponible en tout temps pour tout le monde ou si tu prends des meetings, des rendez-vous avec telle personne à tel jour, puis c'est récurrent, puis ils doivent aller te voir, puis toi t'effectues un suivi. Comment ça fonctionne?
C'est beaucoup dans l'informel avec les papas qu'on a sur place. Je leur donne des rendez-vous, mais c'est, je les vois tous les jours. Là. Ouais, tous les jours, je passe du temps avec eux autres, je suis disponible. Non, il va venir. J'ai un rendez-vous demain à telle heure, es-tu disponible? Je vais l'accompagner sur place, je vais aller avec lui.
Okay.
Je vais faire les démarches avec lui, les téléphones avec lui s'il y a besoin. Je suis vraiment disponible pour eux autres. Oui,
fait que t'es pas le gars dans son bureau qui dit à 1h on se voit, puis si on se voit à 2h moins quart dans le corridor, on se dit pas un mot. Non, là, non, t'es là tout le temps. Oui, tu fais partie de la vie active, la communauté de cette maison-là.
C'est ça.
T'es dans la gang, dans le fond.
La plupart ont même pas de voiture, de moyen de se déplacer, puis tout ça, fait que je les accompagne. Là. Je rentre dans le bureau avec eux autres, partout qu'on va.
S'il y a des gens, en terminant, qui souhaiteraient, en écoutant l'entrevue, contribuer à la maison L'Oxygène, comment ça fonctionne?
Pour le moment, comme je disais, on a négligé des phases de développement. Donc, sur les sites Internet, page Facebook, on n'a pas encore de bouton actif où on peut faire un don. Donc, pour l'instant, on est très ouvert à recevoir les gens. Un petit coup de fil. Vous pouvez.
Alors, moi, j'ai quelqu'un en ligne actuellement là, qui serait prêt à faire un don au moment où je vous parle. Qu'est-ce qu'on lui dit de faire? À qui il s'adresse?
Il peut, ben, dans le fond, c'est de nous appeler. Fait que des fois, on sait que les gens y aiment voir à qui ils donnent. Fait qu'ils peuvent venir nous le donner en main propre ou l'envoyer par la poste pour le moment. Dans les prochaines semaines, il va y avoir un bouton là, sur notre page Facebook, site Internet, où on va pouvoir donner directement en ligne.
Donc, si vous voulez communiquer avec la maison L'Oxygène, ça se trouve au 1595 3e avenue. Bienvenue à Québec. Le numéro de téléphone, c'est le 418-929-6682. 418-929-6682. Une mission honorable, une cause juste. Je pense que ça répond aussi à un besoin grandissant et criant au niveau des papas et des familles. Merci beaucoup pour votre travail acharné. Merci beaucoup pour ce que vous faites présentement pour le bien-être de plusieurs personnes. Merci d'avoir accepté l'invitation des Vraies Affaires également.
Merci. Merci à vous.
Merci beaucoup. Restez au retour de la pause. On n'a pas encore jasé avec Pierre-Eugène de quoi on va parler. Ah oui, on en a jasé.